projet que nous portons, c'est aussi un projet pour la ruralité, un projet pour toutes nos campagnes.
La première chose que je dénonce, c'est qu'on abandonne les territoires.
Il y a une révolte au départ des Gilets jaunes contre l'écologie punitive.
Les espèces de Parisiens là, qui font 7 minutes de vélo par jour, ils ont l'impression de faire repousser la forêt amazonienne.
Il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale, qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources.
Vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement.
La traverse, transition en terrain connu, épisode 13. Los Angoel 2 sur 2, comment faire système ? On a vu dans le premier épisode l'importance du récit dans la conduite du changement, et la manière dont il a contribué à façonner les orientations stratégiques de la ville. Dans ce second épisode, on a voulu s'intéresser aux actions concrètement mises en œuvre aujourd'hui et à l'écosystème d'acteurs présents sur la commune. On va parler de la recette lossoise de la transversalité, de la façon qu'ont les acteurs d'appréhender la problématique sociale, des actions menées sur le plan énergétique et alimentaire, et des difficultés auxquelles sont confrontés certains acteurs face aux implications du changement. On commence avec une question très générale: qu'est-ce qui rend l'action de la ville originale ?
On est entièrement dédié à cette question de la transition.
Julien Perdrija, directeur de cabinet à la mairie de Los Angoel.
C'est-à-dire qu'en fait, on a des compétences obligatoires de voirie, de gestion du cimetière, d'organisation des repas pour les maternelles et les écoles. Et on fait ce travail-là, sauf qu'en fait, on le tourne sous l'angle de la transition. Et ce à quoi on ajoute ensuite des projets, des politiques qui ne sont pas obligatoires. Le plan solaire, par exemple, qui va sortir là, on va être autonome en électricité pour les besoins communaux d'ici la fin de l'année, en fait, d'ici fin 2020. Pour les bâtiments et les usages en fait, de la commune, pas le tertiaire et pas les habitants. On a tout un système alimentaire local aussi qu'on développe. Mais là encore, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de chef de projet dédié. Donc c'est chacun qui en fait un petit bout, un peu comme il peut, et avec l'aide notamment des anges gardiens qui font un travail extraordinaire à nos côtés, alors qu'on subventionne, mais je pense que ce n'est pas la subvention qui fait qu'ils sont aujourd'hui là à nos côtés. C'est parce qu'il y a dans ce territoire des choses qui peuvent être enclenchées. Troisième exemple, c'est tout ce qu'on a mis en place sur les enjeux démocratiques, c'est-à-dire les 50-50, par exemple, comment on crée les conditions pour que les Lossois se reconnaissent un droit d'initiative pour agir sur des espaces d'intérêt général. Ça peut être un vestiaire, ça peut être un terrain vague, ça peut être n'importe quoi. Ça nous semble être aussi primordial. Voilà, transition énergétique, transition alimentaire, transition démocratique, je dirais que c'est les trois aspects si on devait comme ça un peu cataloguer, sur lesquels on cherche à être très proactif.
L'entrée systémique qui vient d'une...
Jean-François Caron, maire de Los Angoel.
D'un goût à comprendre des interactions, c'est de l'écologie. L'écologie, c'est l'interaction entre les êtres vivants et leur milieu naturel. Et de la même manière que pour moi, la question de la biodiversité, elle éclaire considérablement l'action politique. Comme j'ai beaucoup travaillé la question de la biodiversité... Effectivement, c'est bien dans le fonctionnement des écosystèmes que ça se joue. Et dès qu'un écosystème s'appauvrit, il est mort. Donc tout ce qui se passe dans nos sociétés, notamment humaines, c'est pareil. À chaque fois qu'on empêche la liberté d'expression, qu'on empêche la liberté d'être, etc. etc. Donc oui, il y a autour de ces questions-là une entrée, une vision écolo. De la même manière que quand on est écolo, ce qu'on aime, c'est la vie. Et ce n'est pas le nationalisme, ce n'est pas le drapeau. Il y a une vision d'une approche biodiversité de la vie sociale, de la vie ensemble, et de la façon de faire la ville. Une ville, c'est un biome, c'est un écosystème, quoi.
Alors, c'est ça, je pense que c'est une particularité de Los Angoel qui est le fruit...
Valérie Caron, chargée de mission conduite du changement à la mairie.
D'un travail qui a été mené depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, on recueille les effets d'une politique qui est en place depuis les années 2000. Quoi. En gros, on a 20-25 ans de travail derrière nous. Et le gros travail qui a été conduit au sein même des services. C'est-à-dire que les agents ont une compréhension non seulement de le rôle qu'ils ont à jouer en termes de développement durable, de cette transition vers le développement durable, mais également le rôle qu'ils jouent au sein du tout. Et ça, c'est lié aussi beaucoup à la façon dont est mis en place ce management interne à Los Angoel. Beaucoup sous forme de ce qu'on appelle la méthode projet, en fait, où tous les projets sont travaillés avec tout le monde et de façon transversale. Vraiment, il n'y a pas de cloisonnement entre les services. C'est en fait un mode de management coopératif partagé, enfin je ne sais pas, vous l'appelez comme vous voulez. Et ça, c'est pas tombé du ciel. Ça a été beaucoup de formations, beaucoup de séminaires, des fois des erreurs, des choses qui se sont bien loupées et sur lesquelles on a eu là, pour le coup, quand on se trompe sur quelque chose, on prend conscience qu'on a mal fonctionné. La façon donc un peu ergonomique de dire bah, il y a eu un dysfonctionnement, pourquoi, comment on peut mieux faire. Voilà, de reprendre aussi les coups ratés, hein, c'est intéressant. D'être fier aussi des coups réussis. La reconnaissance du travail de chacun, enfin tout ça, c'est 20 ans de boulot. Donc, tout fonctionne par projet. Il y a un directeur des projets qui permet d'avoir un regard un peu technique, mais il n'y a pas un responsable du développement durable.
Les collectivités locales et leur administration sont largement encouragées depuis de nombreuses années à sortir des raisonnements en silo et à penser de façon décloisonnée. Ces objectifs sont notamment poursuivis pour assurer la cohérence de l'action publique. Les actions menées dans un secteur ayant des implications sur d'autres secteurs, il est logique de les appréhender de façon croisée. La transition écologique représente une raison de plus pour décloisonner les approches. Elle invite à penser le territoire comme un écosystème polyvalent où les acteurs sont interconnectés. Cette transversalité ne se cantonne pas au service de la municipalité. Sortons de la mairie et dirigeons-nous vers la base 11-19, cet ancien site minier transformé en écopole, autre centre de la ville, ou plutôt quatre autres centres. Sur la droite, en arrivant, on trouve le Centre Culture Commune, une association intercommunale de développement artistique et culturel. Sur la gauche, on retrouve le CPIE, Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement, dont on a parlé dans le premier épisode. À côté, le CERD, Centre de Ressources du Développement Durable. Enfin, en face, le CD2E, Centre de Développement des Éco-Entreprises.
Oui, donc je suis François-Xavier Calins, directeur adjoint du CD2E, une association dénommée Pôle d'Excellence Régionale, qui a été créée en 2002 à l'initiative de mon président Jean-François Caron et de mon directeur, qui est maintenant parti à la retraite, Christian Trenel. Alors la vocation première du CD2E, c'est d'accompagner les créateurs et entrepreneurs, en fait, donc chefs d'entreprise, dans la conduite du changement vers une transition énergétique, écologique, sur tous les thèmes de l'environnement. Avant 2002, Jean-François Caron était le vice-président au Conseil régional en charge de l'environnement et à l'initiative de ce mandat en tant que Conseil régional, il y a eu une étude de fait de préfiguration d'un pôle d'excellence sur la création des éco-activités et donc c'était à son initiative en tant que Conseil régional. Alors on a un rayonnement régional, Hauts-de-France, après on est basé sur un site emblématique, une ancienne base minière en reconversion, sur un territoire en résilience lié à l'arrêt de l'activité des mines. Donc il y a un symbole d'être positionné ici dans le bassin minier, et notamment sur cette base minière. L'implantation du CD2E, donc il y a une quinzaine d'années, sur la base du 11-19, avait pour vocation aussi à tisser un réseau d'acteurs autour de la thématique de la transition énergétique, de la transition écologique, enfin de l'éco-transition. Et on travaille beaucoup avec le CERD, donc le Centre de Ressources du Développement Durable. C'est un acteur important en région qui a été créé à peu près en même temps que nous, qui n'a pas du tout la même vocation, mais ça fait partie des partenaires du CD2E.
Le CERD est un groupement d'intérêt public État-Région Hauts-de-France.
Marie Décima.
On aide à la mise en place de des politiques communes entre ces deux institutions, dans leur diversité, et donc surtout sur le thème du développement durable. Donc on aide les territoires à mettre en place des projets de développement durable. Et aujourd'hui, développement durable, on est plus sur des thèmes précis, comme moi je suis sur l'alimentation, j'ai des collègues qui sont sur les nouveaux modèles économiques, donc comment aider un territoire à impulser des nouveaux modèles économiques auprès de ses de ces acteurs privés, mais aussi de ces associations, etc. On a un pôle climat avec un observatoire climat. Voilà, on a une diversité d'actions et puis aussi de thèmes. Et on a aussi une diversité d'actions, c'est-à-dire qu'on a des ambassadeurs du développement durable, donc un réseau de personnes voilà, qui sont dans des métiers très différents des nôtres et qui peuvent du coup intervenir sur des thématiques. Et enfin, on a aussi des tours, donc sorte de tour opérateur touristique sur le développement durable, ici en région, pour montrer comment on fait, créer de l'engouement lors des visites. Enfin, voilà. Et donc, il y avait le CPIE Chaîne des Terris qui était déjà installé. Il y a le CD2E qui était installé. Et donc, c'était logique aussi d'avoir une structure comme le CERD qui s'installe ici. Et surtout qu'on a une dimension régionale. Donc à l'époque c'était Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui Hauts-de-France, et que géographiquement, souvent tout est basé à Lille, alors que géographiquement finalement ça a du sens d'être un peu plus central dans cette région. Et puis aussi ce lien avec ces structures, puisque l'idée d'être dans les mêmes lieux fait qu'on peut aussi échanger plus facilement.
Il y a des échanges de connaissances entre les différentes structures.
Oui, alors c'est selon le temps qu'on a, mais effectivement on se connaît assez spontanément sur les différents projets. Moi plus le CPIE, parce que c'est mon domaine, mais mes collègues en lien avec le CD2E. Et puis pareil, la compagnie de théâtre ici en dessous, voilà, je suis administratrice de cette compagnie de théâtre, voilà, par hasard, parce qu'on se croise et que voilà, on croise nos cultures, quoi, pour le coup.
On s'éloigne un peu de la base 11-19 pour nous rendre pas très loin au centre de formation professionnelle Apprenti d'Auteuil, spécialisé sur les métiers de l'éco-construction.
Je m'appelle Frédéric Blaisel, je suis le directeur du centre de formation professionnelle Apprenti d'Auteuil, donc le centre professionnel Sainte-Barbe. Nous sommes donc un centre de formation qui prépare donc des jeunes apprentis aux métiers du bâtiment, de l'éco-rénovation et de l'éco-construction. Donc dans ce cadre, nous développons sur toutes les filières métiers des modules spécifiques sur l'éco-rénovation, l'éco-construction, les matériaux biosourcés, enfin voilà. Et bien sûr que ce sont des vecteurs d'intérêt pour les jeunes et pour les métiers, ce sont des notions d'avenir. On le voit bien aujourd'hui, il ne se passe pas une journée sans qu'on nous parle de développement durable, d'éco-construction. On voit avec l'Australie. Effectivement, dans 5-6 ans, une entreprise qui ne prend pas en compte ces aspects-là aura du mal à décrocher des marchés, aura du mal à se développer. Donc il y a un intérêt et de l'apprenti parce qu'il sera performant sur un marché qui commence à se développer avec certaines techniques et pour l'entreprise de garder sa spécificité et d'accroître sa compétitivité par rapport à d'autres. Donc on est très très sollicité et très attentif à toutes ces problématiques.
Est-ce que c'est pour cette raison que vous êtes installé à Los Angeles?
Alors non. Je dis non d'une première d'un trait comme ça, mais oui. Alors oui et non. Non parce que à une époque, lorsqu'on a décidé de construire ce centre, on était en recherche de terrain et donc on n'avait pas forcément une vision très très claire des acteurs et justement de toute la partie environnementale qui était développé sur le Sangoël. On était vraiment en recherche d'un terrain qui pourrait nous accueillir et qui serait en prise directe avec les publics que l'on accueille, hein, c'est-à-dire des personnes qui ont pour certaines des difficultés sociales, voilà. Donc après quelques recherches, on a eu quelques propositions d'acteurs locaux. Et notamment Monsieur Jean-François Caron, qui a été un acteur clé dans notre venue, puisque donc il a expliqué à Apprenti d'Auteuil la démarche qui était en train de se développer sur le Sangoël, et donc ce qui correspondait complètement lié à la vision qu'on avait des choses et au projet qu'on souhaite défendre ici.
On le voit, la transversalité des pratiques se traduit aussi par l'implantation d'acteurs qui, à travers des prismes différents, abordent tous le sujet de la transition. Ici, aux apprentis d'Auteuil, le prisme adopté est par exemple celui de l'insertion. On le sait, la question sociale représente un sujet de taille à Los Angeles et plus largement dans l'ensemble du bassin minier, marqué par le chômage et la précarité. La transversalité dans la conduite du changement, c'est donc aussi la prise en compte conjointe des enjeux écologiques et sociaux. Écoutons à ce sujet la directrice du Centre communal d'action sociale.
Alors, Christine Houldrabol, la directrice du CCAS. J'ai été nommée il y a environ un an, suite au départ du directeur du CCAS. Nous sommes en train de mettre en place un nouveau CCAS, entre guillemets. Voilà, on espère développer des actions et des projets à l'avenir, dans un avenir proche quand même, au bénéfice de la population. On aimerait aussi monter des projets de plus grande envergure, par exemple aller vers la transition écologique, énergétique. C'est ce qu'on aimerait, éduquer la population, mettre en place par exemple des voitures électriques pour la population, des choses comme ça.
C'est un travail de longue haleine déjà, c'est une volonté politique.
Claudie Demester, adjointe au CCAS.
De la part du maire et du conseil municipal. Ce n'est pas tout d'aider les personnes, il faut aussi leur apporter des choses, leur faire comprendre comment pouvoir faire des économies d'énergie. C'est surtout sur ça qu'on table beaucoup. Bien sûr, on fait d'autres actions, c'est des ateliers, décoration, on a fait ça pour Noël, tout ça. On va leur apprendre aussi à faire des repas en économisant, refaire des repas avec tous les restes, des choses comme ça, pour leur apprendre à faire beaucoup d'économies, parce que à l'heure actuelle, c'est ce qui prime. Les gens sont, c'est un peu dur pour tout le monde. Et donc voilà, c'est une volonté politique de pouvoir communiquer à la population.
Je préfère que l'on apporte une solution qui soit complètement adaptée aux besoins d'une famille.
Jean-Louis Hotte, directeur de la maison du département Solidarité de Lens-Liévin.
Même si elle ne répond pas à des critères environnementaux les plus pertinents, plutôt que de la faire attendre 2 ans de plus pour qu'elle intègre un logement HQE B12 Z25-B. Elle s'en fout, et honnêtement moi aussi. Ça, c'est vraiment le rôle du travailleur social qui doit avoir cette curiosité et qui doit avoir l'ensemble des clignotants en tête. Mais pour autant, dans le travail qu'il va avoir avec les familles, tout ça, ça travaille en... C'est de l'arrière-plan. C'est ce que lui, il a en arrière-plan en tant que travailleur social. Son travail, c'est de répondre à l'urgence, à l'urgence des situations. C'est bien beau de dire à une famille, ouais, mais c'est très... Vous voyez, là, vous allez avoir un jardin partagé à côté de votre... à côté de votre logement, et on va mener avec vous des actions de sensibilisation, alors que la pauvre dame qui est là avec ses 3 gosses, elle a bien du mal de leur acheter une boîte de ravioli pour le soir.
D'un point de vue politique, sur les valeurs, on cherche quand même une transformation sociétale, donc c'est d'abord pour répondre aux besoins des populations, et donc dans ces populations, parmi les plus précaires, à ceux qui en ont le plus besoin. Mais c'est aussi une fin, un moyen d'une certaine manière, dans le sens où on ne peut pas faire de transition écologique si on n'implique pas tout le monde, en fait. Et il y a plein d'aspects des transitions sur lesquels plein d'acteurs ne veulent pas aller. Quand on est sur de la mise en bio au niveau de l'agriculture, on a besoin de bras pour travailler dans les champs. Et ça tombe bien parce qu'on a des gens qui sont largués par le système actuel, qui les rejettent dès qu'il y a une tentative de réinsertion et qui ne trouvent pas du coup leur voie d'accès sur une remise en mouvement dans sa vie professionnelle et personnelle. Donc voilà, c'est à la fois une fin de travailler avec dans cette logique-là, et en même temps, force est de constater que ça permet de répondre du coup à leurs besoins, mais ça permet du coup d'amplifier les transitions derrière.
L'action de la ville de Los sur ces quartiers n'est pas profondément différente de ce que l'on observe dans d'autres communes qui ont une action sociale. Je dis bien une action sociale, pas une action dans le domaine du développement durable. Une action sociale qui est similaire. Donc c'est beaucoup plus l'action sociale, mais si l'action sociale ne s'ancrait pas sur le développement durable, je ne pense pas qu'il y aurait une différence particulière. Vous prenez par exemple un voisin direct de Los Angeles qui est Liévin. Liévin qui depuis 30 ans développe une politique sociale extrêmement importante au travers de sa politique de jeunesse, au travers de ses centres sociaux, au travers de sa politique sportive. Liévin a des résultats en matière sociale qui sont aussi bons, et j'oserais même dire meilleurs que ceux de la ville de Los.
Les politiques sociales, elles étaient globalement dans le bassin minier, compte tenu de la pauvreté des gens, du côté très ouvrier, très collectif, elles étaient très investies. Historiquement, avec un département qui avait des politiques qui étaient souvent citées en exemple au niveau national, avec, avec des communes très sensibles à ça, une forte présence historique des communistes, donc un sujet qui a été vachement labouré, même topo que les socialistes. Dans l'entrée systémique, en fait, je l'ai plutôt initié par la question environnementale et la question participation habitante, mais pas par la question sociale. Parce qu'il y avait moins de gains à faire, parce que c'était bordé, parce que c'est souvent des guichets quand même qui tournent. Bon. Pendant très longtemps, il n'y a pas vraiment eu, dans la logique développement durable, c'est-à-dire économique, sociale, environnementale, il n'y a pas vraiment eu une entrée, une pensée de l'entrée par le social. Il y a eu une entrée par l'environnement, ça c'est sûr, une entrée par l'économique très fort, parce que pour moi c'était absolument décisif de montrer qu'on pouvait créer de l'activité et de l'emploi qui avait du sens. Parce que le discours écolo ici, si on ne crée pas d'emploi, c'est même pas la peine d'esquisser l'ouverture de la bouche, puisqu'en fait les gens ils disent juste, mais nous on a 20% de taux de chômage, donc qu'est-ce que vous nous racontez avec des histoires d'environnement? Bon, les politiques sociales sont des politiques de développement, donc comment on utilise l'argent public pour faire du développement? Donc c'est l'exemple du passage au bio, comment une politique d'aide alimentaire va en même temps avoir un impact sur le modèle économique des agriculteurs, des associations d'insertion, c'est un exemple. Ou alors, dans un autre domaine, la précarité énergétique est majeure ici, hein. Et donc comment les aides globalement données en matière d'énergie peuvent aider à faire avancer des politiques dans le cadre de la réhabilitation du bâti, ou enfin, des choses de ce type. Bon, donc, on a développé des choses, des services nouveaux, mais en même temps, le problème des services nouveaux, c'est qu'ils coûtent. Et surtout, s'ils marchent, j'ai presque envie de dire, des fois, on se dit qu'il faudrait faire des services, mais qu'ils ne marchent pas, parce qu'on ne va pas arriver à suivre financièrement. Bon, on a mis, par exemple, en place un véhicule pour personnes âgées qui redonne de l'autonomie, etc., etc., mais ça marche du feu de Dieu. Et donc, du coup, c'est des postes budgétaires importants. Donc, on hésite à augmenter. En plus, Los, c'est une commune. On est deux communes à payer, qui payons le moins d'impôts de toute l'agglo, Ulu et Los Angeles. Et moi, j'ai toujours voulu rester très faible en taux d'impôt. Sur le fond, je pense que c'est une connerie ce que je dis, parce que l'impôt, c'est quand même l'action publique. Donc, sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'action publique. Un libéral, il va dire pas d'impôt. Hein. Et alors que si théoriquement on est de gauche, écolo, progressiste, ça dépend comment on l'appelle, on va plutôt appeler à l'impôt. Mais pour un écolo qui arrive dans un univers comme ici, moi si j'augmente les impôts, je me fais tuer politiquement. Donc j'ai fait le choix, depuis que je suis maire, de ne pas avoir bougé le taux d'impôt. Bon. Ce qui fait qu'on a des recettes très faibles. On a un potentiel fiscal faible. Et ce qui fait qu'effectivement, on ne peut pas déverser de la manne de centaines de milliers d'euros sur les politiques sociales. Donc on y met de l'argent, hein, mais pas, on n'a pas énormément de marge.
Tell you, damn guys ain't dumb. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Dire Straits, Money for Nothing. Les interactions entre les enjeux écologiques et sociaux prennent plusieurs formes. La sortie de la précarité est évidemment une condition de l'acceptabilité et de l'intérêt pour les politiques de transition écologique. En parallèle, l'amélioration des conditions sociales d'existence, qui représente en soi un enjeu de taille sur ce territoire marqué par le chômage et la précarité, semble en partie permise par des actions ambitieuses en matière de transition écologique. On le voit dans les métiers de l'insertion qui ont un intérêt à être écolo-compatibles, dans la mesure où ce sont des métiers d'avenir. Penchons-nous maintenant sur la façon dont cette prise en compte des enjeux sociaux se traduit dans les trois axes de travail présentés tout à l'heure par Julien Perdrija. Démocratie, énergie et alimentation. Dans le premier épisode, on a vu les actions menées sur le récit et l'image du territoire, ainsi que l'implication citoyenne qui contribue à la transition démocratique. Qu'en est-il des volets énergétiques et alimentaires ? On a vu que les parcelles agricoles en bio s'étaient multipliées et que les bâtiments communaux sont en passe d'être alimentés à 100% par de l'électricité solaire produite localement. Mais sinon, quoi d'autre ?
Le travail en coopération avec les bailleurs sociaux, c'est vraiment très important parce que justement, ce sont des gens justement qui bénéficient d'appartements à loyer modéré qui occupent ces logements. Et il y a eu un vrai travail, on va dire, d'information auprès de ces bailleurs sociaux pour qu'ils changent peut-être leur technique à la fois de construction et puis d'équipement. Donc l'exemple du chauffage électrique, puisque la commune est anti-chauffage électrique depuis 2000. Et puis aujourd'hui, ça a été plus loin, puisque en fait maintenant, les logements sociaux qui sont construits sur la commune sont des logements passifs. Et donc ces bailleurs sociaux, l'avantage qu'ils trouvaient, au début ça a été un peu des... On a un peu poussé, hein, puisqu'on les a obligés. Mais une fois qu'ils ont compris qu'à Los Angeles, c'était finalement peut-être un territoire d'expérimentation, ils ont joué le jeu. Parce que du coup, ils avaient du conseil, ils avaient de l'accompagnement pour mener justement des techniques un peu expérimentales.
Moi, je pense qu'il y a moins d'impayés dans les logements, justement, les nouveaux logements, hein, parce que déjà, ils payent moins d'énergie, moins d'électricité, moins de gaz, tout ça, puisque c'est vraiment... là, on a des logements dans le quartier ouest, hein, et ils payent 150 euros. D'électricité par an. Donc, quand vous voyez que nous, on paye plus de 1000 euros quelquefois dans notre logement.
On n'est pas politique de la ville officiellement parce qu'on n'a pas le niveau de densité requis. Les critères en fait, de la politique de la ville, c'est à la fois un niveau de pauvreté, maillée à un niveau de densité. Donc la pauvreté, il n'y a pas de problème. On est bon dans les... Voilà. Mais on n'a pas de grands ensembles, effectivement, puisque le bassin minier, en fait, c'est de l'étalement urbain. Donc on passe à côté de pas mal de dispositifs politiques de la ville depuis des lustres. Alors, dans les grandes villes comme Lens, Liévin, etc., il y en a, mais ce n'est pas à l'échelle. D'où le projet dit de renouveau pour le bassin minier, qui a été porté par le précédent exécutif avec François Hollande, pour justement répondre de manière presque sur mesure aux enjeux du bassin minier, qui ne sont pas les enjeux qu'on retrouve ailleurs sur le territoire national, parce que il y a une urbanisation qui est complètement iconoclaste, en fait, ici.
Le plus gros axe de travail actuellement sur la thématique énergétique, ce n'est pas l'énergie solaire, c'est la rénovation du bassin minier. Il y a une démarche nationale qui s'appelle le RBM, c'est le renouveau du bassin minier, 23 000 logements à rénover en 10 ans. Un des premiers travaux qu'on a fait il y a 2 ans avec cette dynamique-là, c'était de mettre des critères de performance importants, c'était d'y inclure des éco-matériaux, ça a été de monter un outil qui est en test actuellement, qui est la garantie de performance énergétique, pour garantir finalement que le travail qui est fait par les installateurs avec des matériaux plutôt de filière biosourcée, atteint vraiment les objectifs qu'on s'était fixés par rapport à l'argent que l'État investit. Ça représente des sommes assez conséquentes de l'État et des territoires, et bien évidemment des bailleurs sociaux. Là, on a un très très gros enjeu. On ne parle pas d'énergie renouvelable. On parle d'économie circulaire sur l'usage des matériaux. On parle d'économie circulaire sur la valorisation des déchets quand il y en aura, si on doit abattre des cloisons ou des extensions, des choses comme ça, pour réutiliser ces matériaux en fond de roulement ou dans d'autres constructions, mais on parle surtout de maîtrise de l'énergie. La base, ça reste ça. Et c'est ça qui nous permettra d'atteindre des objectifs importants. Si on ne travaille pas sur l'efficacité énergétique en amont, on n'a aucun intérêt à développer les énergies renouvelables parce qu'il faudra toujours en développer plus. Et ça, c'est une problématique assez importante. Et comme disait un ancien président de l'ADEME, le kilowattheure qui coûte le moins cher, et donc naturellement, celui qui pollue le moins, c'est celui qu'on ne consomme pas. Et il faut d'abord démarrer par ça.
Et voilà, ça n'empêche pas qu'on ait, on a quand même un quartier pour nous prioritaire, qui est la cité Belgique, la cité 5 et la cité Bellevue, qu'on a regroupé sous le vocable de quartier ouest, donc à l'ouest de la ville, qui est un quartier en fait où historiquement... on mettait les délégués mineurs, les syndicalistes, enfin en gros les rouges vifs, pour les éloigner le plus possible du centre-ville. Hein. Quand je dis on, c'est les houillères. Et donc qui, sociologiquement, à travers le temps, gardent en fait une espèce de coloration comme ça, socialement très marquée. Et donc aujourd'hui, c'est le quartier sur lequel on investit énormément. En perspective, on a le développement d'un éco-quartier, justement, sur un ancien terri qui a été abrasé. Donc plutôt que de le laisser en friche, on va essayer de faire des logements qualitatifs. Et donc, à partir de ça, de recréer les conditions pour faire de la couture urbaine, de la ramification avec les cités existantes. Et ça fait, je dirais, 15 ans. Honnêtement, il faudrait demander à Jean-François, je pense que ça fait 15 ans qu'on est en concertation avec les Lossois au niveau de ce quartier, dans la perspective d'un futur aménagement. On n'a toujours pas posé la première pierre. Comme on est une des villes les plus pauvres de France et que tous les logements qu'on sort, c'est forcément avec des bailleurs sociaux ou des investisseurs privés, on ne peut pas le faire, nous, à budget propre. On est obligé à chaque fois de faire, c'est du soft power en fait, en permanence, c'est-à-dire de créer les conditions d'attractivité, de conviction de partenaires qui vont venir, eux, trouver un intérêt à investir dans la ville. Quel est l'intérêt pour un investisseur d'investir au quartier ouest ? Comme ça, spontanément, il n'y en a pas directement. Sauf si vous voulez avoir une image de marque aujourd'hui, parce que vous créez un éco-quartier à Los Angeles, sauf si vous voulez expérimenter des choses, sauf si vous portez des valeurs qui rencontrent celles que nous, on porte aussi. Bon, voilà. Mais en fait, c'est assez illustratif, je trouve, ce quartier ouest, de la difficulté qu'on peut avoir à Los Angeles à créer les conditions d'une transformation de la ville au sens d'une amélioration des conditions socio-économiques d'habitat, de vie au quotidien. Et en même temps, en parallèle, tout ce qu'on fait sur les enjeux de transition, mais qui sont presque hors du droit commun, sur lesquels on arrive à avancer et qui créent seulement les conditions pour revenir ensuite sur le droit commun et créer la faisabilité de politiques en fait très classiques derrière. Et c'est assez fou quand on regarde ça comme ça, ça marche presque en sens inverse. Est-ce que c'est... Du coup, le fait, enfin, je réfléchis tout haut là, mais c'est peut-être une spécificité aussi qui fait que ben on pousse très loin les feux de la transition, parce qu'en fait, c'est la seule opportunité qu'on a pour arriver à transformer le système. Sinon, c'est Hénin Beaumont, l'autre modèle.
On voit bien la prégnance des enjeux sociaux dans les actions menées sur la transition énergétique. En demandant aux bailleurs sociaux de faire du logement passif et en s'engageant dans la démarche du renouveau pour le bassin minier, la ville espère réduire la facture des ménages les plus précaires. Dans le même temps, mettre en avant l'engagement de la ville pour la transition permet d'attirer d'éventuels investisseurs, par exemple sur l'aménagement d'un écoquartier en quartier prioritaire. Penchons-nous maintenant sur le volet alimentaire et laissons la parole à Dominique Hess, directeur des Anges Gardins et président du réseau Cocagne.
Je suis directeur des Anges Gardins et qui anime un pôle territorial de coopération économique, PTCE, autour de cet enjeu du bien vivre alimentaire, de voir comment faire société sur cette question importante. Même si toutes nos activités touchent pas le seul registre de l'alimentation, ça reste quand même cette question alimentaire, notre point de force, notre point d'ancrage principal. Déjà, le maire de Lens-sur-Goële a souhaité en 2011, on se connaissait parce qu'on avait monté le CERD ensemble, tout le monde est petit, souhaité mettre en place une politique alimentaire pour ses administrés. Cette politique s'est appelée VITAL, Ville Transition Alimentation Locale, et j'étais chargé un peu de faire une sorte de conseil à la maîtrise d'ouvrage et d'animation de ce programme-là. Donc concrètement, les Anges Gardins ont pour mission de produire, de distribuer de façon efficace dans un système alimentaire territorial des denrées, fruits et légumes, de proposer aussi des voies de commercialisation à des produits aujourd'hui qui, sur des territoires comme le nôtre, donnent pas encore lieu à la capacité, par exemple des biocoop, de pouvoir s'implanter et de vivre. Ça va être... à Lille, ça marche bien. Dans certains coins, quand une biocoop se débrouille bien avec un patron qui est assez efficace, ça peut fonctionner. Mais ici, il y a eu sur le bassin de Lens plusieurs ratés de structures qui se sont lancées, qui n'ont pas réussi à vivre avec suffisamment de clientèle, parce que vous êtes sur un territoire qui est un des plus pauvres de France. Donc le revenu moyen des gens ne permet pas forcément de consentir aujourd'hui, d'avoir un consentement à faire un effort sur le budget nourriture pour avoir une nourriture saine, équilibrée et de qualité biologique. Donc nous étant un jardin de cocagne au départ, c'est-à-dire une démarche d'insertion par l'activité économique qui permet de produire des paniers à des abonnés solidaires. On a été les premiers en France en fait à lancer ça. Ensuite, les AMAP se sont emparés de cette problématique de paniers, mais ce sont les jardins de cocagne qui ont été un petit peu à l'initiative de ce type de processus voici près de 30 ans déjà. Comme on était donc une des 100 entités du réseau cocagne à finalement petit à petit se prendre au jeu de pas simplement faire de l'insertion et puis du coup de permettre à des abonnés connivants d'être nourris grâce aux fruits de notre travail, de s'intéresser beaucoup plus à cette question, à cet enjeu d'alimentation pour en faire vraiment un enjeu d'inclusion, de justice sociale. Et finalement on s'est dit que sur cet enjeu qui n'a pas de prix, qui est de pouvoir effectivement maintenir une capacité, enfin de créer une capacité de production fruitière ou de denrées aussi diversifiée soit-elle, ça n'a pas de prix. Est-ce que outre les fondations, outre les collectivités, est-ce que les habitants ne peuvent pas nous aider effectivement à répondre aux challenges? Mais du coup, ils participent volontairement à une action qui n'a pas de prix, pourquoi ne pas les récompenser de cet effort via des chantiers coopératifs auxquels ils participent pour nous aider à planter, puis bientôt, j'espère, récolter ces produits. Donc nous est venue l'idée de dire, on va créer en fait une sorte de monnaie qui est la manne, monnaie d'une autre nature pour de nouveaux échanges. Donc grâce à la manne, en fait, les gens participent à des chantiers coopératifs, gagnent de la manne et peuvent en contrepartie se procurer des denrées durables que nous-mêmes distribuons. C'est tout aussi bien nos conserves que nos paniers de légumes, que de prendre un repas ici sur ce lieu repère qui est un tiers-lieu culinaire qui est Ménanel et Saint-Hubert. Alors bien évidemment, quand vous ouvrez un lieu repère au service du bien-vivre alimentaire, il ne se passe pas que des actions qui tournent autour de ça. Il se trouve qu'on a des adhérents de notre système, qu'on a appelé Ménadel, hein, maison d'échange pour une nouvelle alimentation, nouvelles activités, le développement économique local, qui vont gagner de la manne et qui peuvent aussi gagner de la manne en proposant, je ne sais pas moi, un cours de yoga parce qu'ils savent introduire des séances sans en avoir fait leur métier. Ils peuvent un peu lancer ça. Donc de fil en aiguille, en fait, ici sur ce lieu de société, qu'on appelle des tiers-lieux, hein, premier lieu de société, c'est la famille, le deuxième, quand on en a un, c'est le travail, troisième, c'est les clubs sportifs, ce qu'on appelle les tiers-lieux à cause de ça. Et donc c'est d'avoir un lieu qui permette à un moment donné de faire société autour du vivre ensemble, des échanges de services. Il y a un Hyper Café qui fonctionne grâce à l'aide d'un autre hyper établi non loin d'ici, qui tient des permanences, qui commence à tenir des permanences une fois par mois. Et Audrey, qui est juste derrière vous, bah, remplit le programme des manifestations, des nombreuses manifestations qu'on organise, souvent à l'initiative des gens qui sont de la communauté, cette communauté d'échange qui s'appelle la communauté Ménadel.
Alors, ce qu'on aimerait développer, c'est l'accès aux paniers solidaires, les paniers de légumes frais, et que Ménadel cultive de façon écologique. On aimerait donner accès à ces paniers aux personnes les plus défavorisées. Et puis on aimerait, on travaille avec eux parce que Ménadel peut employer des personnes qui sont en difficulté. Donc quand des postes s'ouvrent, ils nous contactent, nous on peut leur orienter des personnes qui correspondent aux critères. Donc on travaille sur ce volet-là. Et on informe la population des actions que Ménadel met en place, parce qu'ils font pas mal de choses très intéressantes. Voilà, donc on informe la population. Et ce qu'on aimerait mettre en place, un partenariat avec Ménadel pour développer la manne et faire comprendre à la population ce système de manne. Et puis que ça se développe sur la commune. Sur la commune et même plus, peut-être. Parce qu'il faut savoir que le CCAS travaille, c'est un énorme volet pour le CCAS sur l'insertion. Voilà, donc pourquoi aussi on travaille en partenariat avec Ménadel sur ce sujet. Donc on a quelques personnes qui, grâce aux emplois que Ménadel peut proposer, qui sont destinés aux personnes en difficulté, hein, qui ont rebondi. Déjà, on les voyait travailler et on voyait chez eux un changement de comportement, voilà, une ouverture d'esprit qu'elles n'avaient pas avant, ces personnes, parce qu'elles étaient submergées par les problèmes, hein, ça peut se comprendre. Hein, voilà. Parce qu'il faut savoir que Ménadel, c'est pas seulement on propose un emploi, c'est pas que ça. Il y a aussi tout un suivi à côté où, on aide la où ils aident la personne et ils l'accompagnent sur tous les volets de la vie, en fait. Voilà, donc on a des personnes qui ont retrouvé un emploi, qui ont rebondi. Après leur contrat, on trouve un autre emploi ailleurs. Certains ont passé le permis de conduire, certains ont retrouvé un logement décent.
On voit ici que le sujet de l'alimentation, porté notamment par les anges gardiens, intègre largement la question sociale. Par l'insertion, certes, mais aussi par la mise en place d'un système d'échange original, élargi au-delà du seul sujet alimentaire. Cette approche systémique engage les acteurs à changer leurs éventuelles habitudes de travail, à coopérer les uns avec les autres. Ces transformations nécessitent un engagement fort, une grande capacité d'adaptation, et ne sont donc pas sans poser quelques questions.
Je pense qu'on n'a pas été aussi loin qu'on aurait pu sur cette logique de développement social à l'heure de la transition. On a un CCAS qui fonctionne de manière assez classique, un centre communal d'action sociale. Qui, voire même, fonctionnait jusqu'à assez récemment, allez, je le lâche, mais à contresens du sens qu'on portait en mairie sur ces enjeux de transition. Je pense qu'il y a des CCAS dans le bassin minier qui vont beaucoup plus loin que nous dans ces logiques d'inclusion sociale et de transformation des outils sociaux. Je pense qu'on n'a pas suffisamment, nous, réfléchi fait ce travail de conception de ce qu'était une politique de développement social à l'heure de la transition. Ça découle presque par nature. Puisqu'on fait de la transition, on va développer un plan paysager, on améliore le cadre de vie, la biodiversité, mais donc aussi le sentiment de bien-être, de bien vivre, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change sur le pouvoir d'achat des gens ? Bon, on va réhabiliter les logements. Bien. Ça va permettre du coup du pouvoir d'achat et donc on paye moins de chauffage et on a plus d'argent dans sa poche. Mais concrètement, en quoi ça change les habitudes de consommation et d'investissement au quotidien dans sa ville ? Bon, donc en fait, on y arrive comme ça progressivement, de manière incrémentale, mais on n'a pas jusque-là fait du CCAS à notre dépens et presque à notre regret, c'est pas faute d'avoir essayé d'enclencher des choses, mais on n'a pas réussi à faire du CCS cet outil aux avant-postes d'une transition sociale. Et donc on a une intuition aujourd'hui. On porte avec les anges gardiens, mais je vous disais, on n'a pas de chef de projet interne, donc ça c'est un gros handicap, un projet de transition alimentaire. Dans ce projet de transition alimentaire, on a développé une monnaie locale qui s'appelle la MAN. Cette monnaie locale, elle vise à reconnaître l'engagement des Lossois, quel qu'il soit, dans des projets d'intérêt général. Cette intuition consiste à dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire du CCAS le levier de valorisation des actions portées par les Lossois à travers la MAN, d'en faire en fait le lieu de reconnaissance de l'engagement citoyen. Et à l'heure de la transition, qui fasse que, on développe de l'échange de services, de biens entre l'Aussois, avec les commerçants, dans des systèmes de production et de consommation locale. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, on en est encore pour beaucoup à l'intuition et on n'arrive pas à passer ce cap. Alors en toute franchise, en toute honnêteté, je pense que ça tient aussi à des questions d'ingénierie en interne.
Quelquefois, faut être honnête, ça met certains agents en difficulté. Parce que le jeu est trop ouvert. J'ai souvent des gens qui me disent, il y a des fois, on aimerait bien quand même avoir des directives beaucoup plus claires, peut-être avoir un fonctionnement un peu plus vertical. Parce que, en fait, d'avoir autant de liberté et de capacité d'initiative, ça peut mettre mal à l'aise. On n'est pas sécurisé, quelquefois. On n'est pas habitué. Et ça, c'est pas beaucoup enseigné.
L'action sociale est restée d'une certaine manière le parent pauvre de ce projet de transition. Ce n'est pas une pensée politique en tant que telle, structurée, organisée, dans une organisation de travail qui la porte. C'est fait un peu comme on peut. J'ai un discours qui est, vous voyez, hyper franc, honnête, parce que j'y crois et parce que j'essaye de comprendre au quotidien en fait, où se situent nos marges de manœuvre, de progrès, etc. Mais si juste on se déplace et on se met dans n'importe quelle commune adjacente à Los Angeles, juste ce qu'on fait au niveau du CCAS, c'est largement, voire plus qu'au niveau de ce qui est fait alentour. Donc c'est là où c'est difficile de trouver l'équilibre entre une ville dans laquelle, puisqu'on est engagé, puisqu'on en attend encore plus, et en même temps, le contexte socio-économique territorial dans lequel on est et dans lequel on est obligé d'évoluer et qui conditionne de manière structurelle ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut ne pas faire. Il y a eu pas mal de burn-out en mairie de Los Angeles parce qu'en fait, ça relève à chaque fois d'une forme de militantisme. Alors aujourd'hui, on le reprend sous l'angle en disant « c'est pas du militantisme, c'est de l'engagement ». Et donc, si on reconnaît l'engagement et si on reconnaît les conditions pour que cet engagement s'exprime, on évite de tomber justement dans un militantisme qui est une forme d'engagement au détriment de sa personne. En tout cas, on le qualifie comme ça. D'autres pourraient dire, mais non, le militantisme, c'est autre chose, etc. Bon, quand on n'avait pas conscience qu'en fait, ça relevait d'une organisation collective de travail, on pouvait avoir un Jean-François, un ancien DGS, un ancien élu, comme ça, presque au fouet, parce qu'il faut vite, parce qu'il y a des réponses à apporter, parce qu'on est dans cette course contre la montre. Mais les gens, alors, soit ils y vont à fond, mais des fois, ils y vont tellement bien et tellement loin qu'ils sont partis, on ne les voit plus, puis du coup, ils éclatent en vol. Il y en a eu plein. Ou alors, justement, ils sont tétanisés, ils se mettent dans le bunker et ils sortent la tête uniquement quand ils sont obligés de le faire. Ce qui nous a beaucoup aidé, en fait, pour sortir de cette situation, c'est de poser la question du travail. En fait, on ne pose jamais la question du travail. On prend ça comme un truc classique, naturel, enfin... Moi, je ne m'étais jamais dit, tiens, le travail, c'est un objet de travail en tant que tel. poser la question du travail comme une question centrale et mettre les questions de projet à côté et prendre vraiment cette question de l'organisation du travail, c'est hyper, hyper, hyper structurel. Et donc, c'est quoi un travail qui passe par la coopération? Comment on organise la coopération? Parce que la coopération, ce n'est pas quelque chose qui se décrète non plus. Donc, comment on l'outille, comment on structure tout ça? Bon, c'est des questions classiques de management, mais la transition, je trouve, les réaccentue et les... Je sais pas le terme, mais en gros, les... Ouais, les cristallise.
La transition, ainsi que la pensée systémique et l'engagement qui l'accompagne, mettent certains acteurs en difficulté dans leur pratique, ce qui vient poser à Los Angoël, comme dans de nombreuses collectivités qui prétendent à un changement radical, d'importantes questions d'ingénierie. Malgré cela, Los Angoël reste évidemment une commune très inspirante. La ville est engagée dans une transition écologique et sociale qui s'assume, fondée sur un récit cohérent, déployé autour des piliers systémiques de la démocratie, de l'énergie et de l'alimentation, et profondément soucieuse de la condition socio-économique de ses habitants. C'est donc la fin de ce double épisode sur Los Angoël, et puisque vous êtes là, on en profite pour vous dire qu'en juin, on fait le bilan. À la traverse, on a profité du confinement pour réfléchir et formuler les principaux enseignements que nous tirons du Tour de France. Nous avons écrit un bilan qui présente ces enseignements et répond, sur la base de nos enquêtes, à une question cruciale de la conduite du changement. Comment, sur la base de l'existant, transformer des initiatives isolées en dynamiques collectives et systémiques? Ce bilan s'adresse aux élus et agents des collectivités, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs et des habitants qui agissent ou réfléchissent au sujet de la transition dans les territoires. Un résumé de ce bilan est d'ores et déjà disponible en ligne, on vous le met dans la description du podcast. Il est également disponible sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Le bilan complet sortira pendant le mois et le prochain épisode de podcast y sera dédié. D'ici là, portez-vous bien !